Salut tout le monde, comment ça va vous autres? En direct du studio B, déjà ça passe vite, le 30 avril, édition de GFP en direct avec une température maussade, avec de la pluie sur Québec. Je vous souhaite la bienvenue, je vous accompagne en musique avec toutes sortes d'affaires. On va se décontracter, on va relaxer, une journée après l'autre, hein? Un jour à la fois. Vous êtes dans l'émission GFP en direct. C'est Georges Fernand Poirier qui vous accompagne jusqu'à 18h. En direct du Studio B sur la rue Saint-Jean. À l'antenne de Radio Fiat Lux.tk, radio indépendante expérimentale de Québec.
My Mediaploc.tk.
Avec les meilleurs succès radio de tous les temps, puis on vous accompagne. Faut pas lâcher. Pandémie ou pas, fuck off la pandémie. On est ensemble, puis un jour à la fois, puis ça va bien aller, vous allez voir. C'est bon, une bonne petite tune de Genesis de temps en temps, là. C'est la guitare pis tout, hein. C'est le drum. Un super drummer, hein. Parfait. Un perfectionniste, là. Phil Collins. À un moment donné, il faisait des shows, lui, avec deux drums, Phil Collins. Il y avait deux drummers dans ses shows. Lui, il jouait, puis il y avait un autre drummer. Tu capotais? C'est pour ça qu'à un moment donné, il était obligé d'arrêter, Phil, parce qu'il y avait des problèmes d'audition, là. Il est quasiment devenu sourd, c'est à force de jouer du drum. Pas évident. Vous êtes dans GFP en direct. Georges Fermant-Poirier au micro, qui tient le phare de Radio Fiat Lux. Pointe-Éco, la radio indépendante en direct du centre-ville de Québec. Expérimental Radio.
Sur radio.fiatlux.tk.
Après ça, hein? Un peu, j'ai envie d'aller voir. Dis-moi ça,
www.radio.fiatlux. Ouais, mais en Italie. .tk.
Ouais, un matin, j'écoutais Radio X de bonne heure. J'écoutais Alex Leblon. Il m'a fait rappeler cette toune-là, hein, puis ça fait longtemps que je l'ai pas écoutée, puis je la trouve bonne. Moi, je m'en sacrement tisse-tu, moi, de parler de n'importe quel poste de radio, 93, n'importe quel poste. On parle de n'importe qui, sur la radio libre, on dit ce qu'on veut, bon. Le gars, je trouve qu'il est quand même pas pire. Il fait un show le matin de bonne heure. Se lever à cette heure-là, là, c'est quelque chose. Là, ne pas être reposant ben, rentrer dans un bloc, là, ça doit ressembler un petit peu... Pauvre Alex, ça doit ressembler un peu pareil comme dans... Je sais pas si vous avez déjà vu la série Au-delà du réel. Tu rentres dans un poste de radio, il n'y a pas un mou du chat, il n'y a personne... On dirait qu'il y a des fantômes dans la bâtisse, puis là, c'est des caméras puis des lumières rouges que tu vois un peu partout. Chaque fois que tu te revires la tête, t'as tout le temps une lumière rouge allumée. T'sais, humainement parlant, ça doit pas être facile. Puis je lève mon chapeau aux artisans de la radio, là, parce qu'il y en a là qui sont pognés tout seuls dans le studio, puis là, il y a plein de monde avec des télox, là. Tu sais, le son, il est moins bon, hein? Avez-vous remarqué ça? Quand t'écoutes le son d'Intellox, ben, tu sais, ça fait un job, là. Mais, le son, il est pas pareil, mais, tu sais, le monde, ils font leur possible pour s'en sortir. Bon, on va s'en sortir comment? On va s'en sortir tous ensemble, puis ça va être un jour à la fois. Faut pas se casser la tête.
Je suis un noctambule égaré dans la longueur d'une journée. Je passe des après-midi, comme si c'était des après-minuit. Je pense aux nuits blanches, aux jours foncés, gardien de nuit de mes pensées. Je suis perdu dans le fond de mes rues, en pleine lumière je me reconnais plus. Je suis un noctambule égaré au pays des grandes clartés, qui parfois me fatigue les yeux avec le clinquant facétieux. Moi qui aimais le clair obscur, je me débande mes quatre murs. Tiens, le jour est déjà parti, que ça me donnera de pas faire comme lui. J'me blouse ou ben j'me pomme en prenant le bout de mon.
Ouais, mais la série que je pensais tantôt, là, c'est Au-delà du réel. Ben oui, Au-delà du réel. Y avait-tu une série pas plus. pas plus épeurante que ça? À TV, là, pas de farce, là. C'est vraiment un monde bizarre. C'était comme Twilight Zone, un peu.
Loin de ses zones d'ombre préférées, loin de ses petits sous-bois douteux. Au contrebandier lumineux de ces sentiers sans éclairage, qui ainsi ne porte pas ombrage, en soulignant les côtés sombres qui font qu'on a peur de son ombre. Je suis un noctambule égaré qui cherche le coin non éclairé, qui l'a vu naître à contre-jour par un obscur trou noir d'amour, errant dans l'inobscurité, comme un hobo sa voix lactée, avec du genre à don pendu, dans la salle des pas perdus.
Pas perdu.
Je suis un noctambule égaré dans une impasse illuminée.
Thank you. Il faut que je vous raconte ça. Peut-être que vous avez connu ça. Il y en a peut-être qui ont connu ça, mais à Québec, il y avait un cinéma. Il y avait le cinéma Capitole, puis il y avait le cinéma de Paris. Puis ils faisaient des shows, puis moi j'y allais. Il y avait des. Ils passaient des cinémas, là, tu sais. C'était des shows de Led Zeppelin, puis Away Down, puis moi j'ai vu ça, là. Puis quand t'allais dans ce cinéma-là, il y en a, ça se pognait le cul là-dedans, puis ça fumait du pot, puis ça fumait la cigarette. T'avais le droit de fumer dans le temps, là. T'avais le droit de fumer. Ça fumait du pot, puis il y en a qui s'emmenaient de l'alcool, là. C'était un vrai bordel, là, ce cinéma-là, là. C'était au Corridioville. Puis là, tu regardais des shows de même, là, puis avec la drogue dans le cinéma. C'était assez spécial, là, je te dis, t'es jeune, là. Mais moi, j'ai connu ça, là. C'était assez... Quand tu sortais du cinéma, t'étais gelé bien raide tellement qu'il y a du monde qui fumait du hash puis du pot. Chaque tune est tout le temps, vous remarquerez ça, peut-être que vous avez peut-être jamais remarqué ça, mais chaque tune, des fois, c'est rattaché à un souvenir. Si on a tout le temps un souvenir d'une tune, bon, c'est passé telle affaire, bon. Mais cette tune-là, ça me rappelle qu'il y avait un concours à Radio-Canada. Puis moi, je sortais de l'école. J'avais obtenu mon diplôme à radio pour faire de la radio, là. TRT. Puis là, il y avait un concours à Radio-Canada qui invitait du monde. Puis Vincent Joly, l'animateur de radio, m'avait invité à son émission. Puis là, il fallait choisir trois tunes. Fait que moi, j'avais choisi cette tune-là, une tune d'harmonium, puis une autre tune. Je m'en souviens plus, hein, ça fait longtemps. Fait que c'est là que j'ai vraiment fait mon baptême de l'air, ce qu'on appelle ton baptême de l'air à la radio. C'est-à-dire la première fois que t'as ouvert un micro, puis que t'as transmis sur des ondes hertziennes ou whatever. Je parlais pas en franglais, là, mais peu importe. Alors, c'est la première fois que j'ai fait de la radio sur une antenne de 50 000 watts. C'était Radio-Canada, la première chaîne maintenant, mais qui diffusait à l'époque à CBV 980 AM. Ça n'existait pas dans le temps. 106.3, ça n'existait pas. Ça a commencé comme ça, puis dans le temps, la radio, il y a une couple d'années, moi j'étais jeune, là, j'avais 17, 18 ans, 20 ans. Mais il n'y avait pas d'FM, là, il y avait juste. Il y avait. Comme station de radio, là, il y avait juste. Il y avait seulement. Je pense qu'il y avait 98.1 qui était CHRC FM. Puis il y avait. C'est quoi qu'il y avait comme poste de radio? Il y avait Radio-Canada, puis il y avait CKRL qui a ouvert en 73. Puis moi, j'ai été un pionnier de cette radio-là. Quand on a ouvert ça, j'ai travaillé là. Puis CKRL, ça l'a ouvert le 15 février 1973. Puis là, j'ai travaillé avec un ingénieur pour... on a monté la station, puis etc. Toute la patente, là, c'était assez radiodiffusion. Mais oubliez pas que dans ce temps-là, l'Internet n'existait pas. Tu sais, c'était de la grosse radiodiffusion, puis des grosses machines, puis c'était marqué danger, puis il y a du courant, tu peux te faire tuer, ça peut exploser, tu sais, genre, là, tu sais. Ça fait drôle à dire, mais il y avait du power, il y avait du courant là-dedans. Allez, on va écouter une petite tonne de Pâques, OK? Après ça, on va me brosser un petit tableau de l'actualité, ce qui se passe, toujours la même affaire. Maudite pandémie plate, hein? C'est plate. Salut tout le monde, vous êtes sur les ondes de Radio Fiat Lux. C'est une journée maussade, mais c'est une journée printanière. C'est une journée qui nous annonce probablement les grandes marées du printemps. Alors c'est comme ça, faut s'habituer, faut s'y faire. On vit au Québec, c'est comme d'habitude. Puis s'il mouille en masse, ça va faire du bien, ça va laver. Moi j'aime ça quand il mouille une journée de temps, c'est le fun. Ça nettoie les rues, ça désinfecte, ça lave, c'est vrai. On y pense pas à ça, là, mais la nature, elle joue son rôle. Moi, en passant, je suis pas d'accord pantoute avec la théorie de Jeff Fillion de Radio X. Lui, il y a aucun savant, il y a aucun scientifique qui nous ont révélé que le confinement, qu'on n'avait plus besoin du confinement. Ça a pas encore été... C'est encore des cas à l'étude. Puis probablement, puis même on voit ce qui se passe à Montréal, ça s'est commencé d'ailleurs. Au centre-ville de Montréal, ça commence à être heavy metal. Assez spéciale édition. Puis là, on va reconfiner le monde. Alors là, il n'y a rien qui nous dit que l'immunité collective, ce sera une solution pour l'instant. Il n'y a aucun savant, il n'y a aucun scientifique, y compris le docteur Raoul, qui est la sommité mondiale là-dessus, qui nous a révélé quoi que ce soit. Alors, ce sont tout le temps des hypothèses, puis des probablement, puis, tu sais, fait que ça va prendre des cobayes, puis du monde qui vont mourir, ben oui. Là, on a décidé de déconfiner, puis d'ouvrir la construction, puis d'ouvrir les valves un petit peu. Mais là, s'il y a une vague de morts qui s'en suivent, vous allez voir que le reconfinement va se faire assez vite. On va voir ça dans deux semaines, on va savoir ce qu'on vaut. Puis l'antidote, là, rêvez pas en couleur, là, vous connaissez les numéros puis les chiffres. J'ai pas besoin de vous les dire. Vous êtes à l'antenne de Radio Fiat Lux. C'est Georges Fernand Poirier qui vous encourage à pas vous décourager. Puis on va écouter de la musique ensemble. Puis on va se déboucher une petite bière. Puis là, à cette heure-là, là, il est 16h, il est 16h40, pas loin. Puis vous êtes sur Radio Fiat Lux. Puis on se décontracte, puis on relaxe. Pas compliqué, là. Radio. Pas compliqué, ben, là. C'est on relaxe, puis on prend ça une journée après l'autre. Demain, c'est une autre journée. Puis bon, on va être là encore, on le sait pas. Personne ne le sait. Quand Kim Jong-un va décider de peser sur le piton, puis nous autres aussi, là, ça va faire un moyen, ça va faire une danse. Une moyenne tour de disco qui va virer avec des lumières rouges. N'oubliez pas, c'est le meilleur succès radio de tous les temps. Numéro 1, radio expérimentale, fiatlux.tk. Visitez notre site, il y a toutes sortes d'affaires, allez voir.
You're nobody till somebody loves you. You're nobody till somebody cares. You may be king, you may possess the world and its gold, but gold won't bring you happiness when you're growing old. The world still is the same, you never change it. As sure as the stars shine above, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love. still is the same. You never change it. As sure as the stars shine above, well, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love.
Thank you. 20 milieux sous les mers, loin de toute cette misère, et des hommes qui s'entretuent, et des hommes qui s'entretuent. Au fond d'un coquillage, l'écho de ton message ne s'entend presque plus. Où vont nos années perdues? Miroir de ton passé, ton cœur fait fracasser en milliers de soleils, en milliers de soleils.
C'est bon, c'est une bonne petite toune. C'est parfait, ça l'eau. C'est bon. Des bons musiciens. Vous êtes à l'antenne de Radio Fiat Lux, dans le retour avec GFP. En ce jeudi, le 30 avril 2020. J'espère que ça va bien, vous autres. Moi, ça va bien. On reste à la maison. Les commissions sont faites. Puis il pleut à boire de bout. Fait que... C'est une bonne température pour rester à la maison. Hein. Il mouille à boire debout. Fait que c'est le fun de prendre une marche, mais quand il pleut à boire debout, c'est moins le fun. Vous êtes à l'antenne de Radio Fiat Lux, dans GFP en direct. Présentement, dans le monde, on dénombre 3 247 648 cas. On dénombre 230 615 décès. Et dans le Canada, on dénombre 53 013 cas, dont 27 538 au Québec, ce qui se rajoute 944 aujourd'hui. Alors, on voit les déconfinements et compagnie que ça va... C'est parce qu'on fait une expérience, c'est expérimental, là, c'est un peu, parce que si on voit que le nombre de cas accélère par rapport au déconfinement, ben c'est sûr que le docteur Arruda disait que il pourrait y avoir un recul là-dessus. Mais en tout cas, on verra. Faut pas se décourager. Puis moi, je vous accompagne. On va écouter de la bonne musique. Ça va nous faire du bien. Puis aujourd'hui, on est le jeudi. C'est le 30 avril. Puis on prend ça relax. Puis le beau temps s'en vient. Les petits oiseaux sont arrivés. Beau temps s'en vient. En fin de semaine, on annonce 17 degrés. 17 degrés, il va faire beau. Alors, du beau temps qui s'en vient pour la fin de semaine. C'est à l'antenne de Radio Fiat Lux dans l'édition de ce jeudi, le 30 avril 2020. Il fait 6 degrés à l'extérieur, puis il pleut. Ben, il pleut à boire debout. Ben, t'as un temps pour rester à la maison, dans le fond. Puis on écoute de la bonne musique, puis je vous accompagne comme ça jusqu'à 18h sur la radio web en direct du centre-ville de Québec.
En Italie, point TK. vous êtes à l'antenne de... Vous êtes à l'antenne de Radio Fiat Lux, Pointe Éco. Je suis avec André Arthur. Salut André!
Bonjour!
Ton micro est correct, là?
Ben, je sais pas.
Ah oui, là, c'est parfait, c'est parfait.
C'est toi qui vas me le dire. Moi, j'ai aucun doigt sur aucun piton.
Ouais, ben là, je vois la modulation. C'est numéro 1. Numéro 1. André, finalement, ça fait une couple d'années. Ça fait combien d'années que tu fais plus de radio, André?
Ça fait presque 2 ans que je me suis séparé des petits biscuits Leclerc.
Ah oui? Ouais. Tu faisais la pub, promotion pour eux?
Non, je travaillais pour eux autres. Leclerc Communication.
OK.
C'est la dynastie.
Pendant combien d'années que tu étais là?
Ouf! Ça a dû être 2 ans, mais ça m'a paru 10.
Pourquoi?
Donc, c'était pas un milieu que j'appréciais. C'était pas un milieu où j'étais heureux. Et c'était un milieu où j'ai découvert toutes sortes. Tout ce que je craignais de voir arriver dans la radio depuis 15 ans, je l'ai vu arriver là.
Ben, tu as vu la radio, comment est-ce qu'elle est scrap à cette heure?
T'as
plein d'apparatchiks.
Game sont... over.
Comment ça se fait qu'il y a plein d'apparatchiks qui atterrissent là, comme par hasard? Sont-tu branchés? Sont-tu baqués à quelque part pour faire la job qu'il y a à faire sur les ondes?
Simplement, la chose la plus importante de l'humanité, la peur.
Oui.
Et ils ont eu tellement peur de tout qu'ils ont maintenant peur plus de tout. Et ça a fait une radio qui ne peut pas déplaire. Si tu dis qu'il fait beau, les vendeurs de parapluies vont te poursuivre. Si tu dis qu'il fait pas beau, les vendeurs de lunettes fumées vont te poursuivre. Et ils vont trouver des avocats, surtout à Québec, pour faire le sale travail.
Oui, mais on a un sacré problème d'éthique là, au niveau de ce qui se passe, des responsabilités des diffuseurs qui ça devrait être.
Il y a une responsabilité, c'est certain, mais ces gens-là ne se voient pas.
Ils n'ont pas de bulletins de nouvelles, ils sont pas obligés. Il faudrait qu'on ait des bulletins de nouvelles avec tout ce qui se passe dans le monde, là, présentement. Là. C'est le chaos, il se passe plein d'affaires.
Il faut comprendre que les gens qui ont pris le contrôle de notre radio ne sont pas des diffuseurs.
C'est qui ce monde-là?
C'est des vendeurs.
OK.
C'est des promoteurs, c'est des peddleurs. Ce sont des gens... La radio a commencé à sa décadence à Québec. 20 ans après Montréal, mais au moment où les vendeurs de publicité ont pris le contrôle des stations et où les dirigeants des stations sont devenus les vendeurs de publicité d'hier.
OK.
Moi, j'ai été élevé dans une radio où les patrons étaient des diffuseurs.
Tu soulèves un problème de manque d'indépendance, de radio indépendante.
Un manque de courage. Parce que ces pilotes-là qui dirigent maintenant les stations de radio, ils voudraient vendre des commerciaux, ils voudraient faire de l'argent, ils voudraient avoir du revenu, mais ils ne voudraient pas prendre de risques.
Ouais.
Et par conséquent, ils n'ont pas d'écoute, ils n'ont pas de revenus, ça ne va pas si bien que ça, et d'autant plus que la musique n'est plus un sujet radiophonique.
Mais je pense que ce qui a peut-être tué la radio, c'est le manque de compétition, plus de radio, qu'il y aurait peut-être, les indépendants n'auront pas le choix, même avec les journaux. Je pense que ils n'auront pas le choix, les indépendants, y compris les radios, y compris les journaux, ils n'auront pas le choix on voit ce qui se passe au Lac-Saint-Jean, là. Il y a plusieurs médias qu'il y a des groupes d'affaires qui veulent acheter ça, puis ils veulent avoir leurs affaires à eux autres. Que ça ne soit pas télévisé tout le temps, avec des nouvelles qui viennent de Montréal et de Toronto, qu'il n'y a rien de local.
Oui, mais par contre, s'ils ne prennent pas de risques, ils n'auront pas de succès. S'ils n'ont pas de succès, ils n'auront pas d'argent. S'ils n'ont pas d'argent, ils n'auront pas d'indépendance.
Mais pourquoi qu'il n'y aurait pas de succès?
Parce qu'ils ne prennent pas de risques, parce qu'ils jouent fessiers.
Ben, ils n'ont pas le choix d'en prendre, à demander des risques. Mais sauf que leur optique, c'est peut-être...
Arrête de rêver en couleur.
C'est peut-être leur optique, politique qui est fait.
Non, ça n'a rien à voir. C'est juste des couillons. C'est juste des vrais Québécois peureux qui ont été intimidés d'abord par les avocats.
Ben oui.
Il n'y a pas si longtemps, il y avait à Québec un sous-ministre de la justice qui se promenait dans les parties en disant « Si vous voulez changer de char, poursuivez André Arthur. »
Il se promenait dans un 4x4 anglais, lui, hein, je pense, c'est lui-là.
Parce que... Lui, il avait découvert
ouais.
que les dirigeants des postes de radio, quand ils reçoivent une action de 100 000 $, qui coûterait 40 000 $ à défendre, mais qui peuvent régler pour 20 000, ils règlent pour 20 000 sur le dos de la crédibilité de leur station et de leur animateur. Alors ça, ça a fait boule de neige. Et maintenant, tout ce qu'on a... Hey, quand mon dernier effort radiophonique chez les Leclerc, c'était deux avocats, les deux propriétaires.
Puis Nathalie vient de partir.
Nathalie vient de partir. Regarde.
Il n'y a plus rien, là.
Non, il n'y a plus de risque qui se prend. Donc, comme avocats, ils sont tranquilles, ils n'ont pas de poursuite, ils n'ont pas de lettre de menace, ils n'ont pas d'auditeur.
Donc, on pourrait en déduire que c'est comme des abris fiscaux et ces compagnies-là, ils servent de d'autres patentes qui marchent moins pour payer moins d'impôts, pour avoir des. Souvent, ces conglomérats-là, ils agissent comme ça. Hein?
Je ne sais pas pourquoi.
C'est pas payant, ça marche pareil.
Je ne sais pas pourquoi les gens riches investissent dans la radio maintenant.
Tu sais bien.
C'est certainement pas pour les revenus. C'est certainement pas pour le prestige. C'est certainement pas pour améliorer la société canadienne. Je ne sais pas pourquoi ils le font. Et s'ils perdent beaucoup d'argent, ben tant mieux. Vous savez, c'est très facile.
Ben, leur publicité leur coûte moins cher, ça c'est un des points.
Je pense pas que Bell achète des réseaux parce qu'ils veulent annoncer Bell.
Ben, ça leur permet d'aller chercher des prospects dans d'autres domaines.
Ils n'ont pas besoin de ça. Il y a le cas québécois qui est différent parce que là,
c'est une
entreprise destinée à promouvoir le retour de Pelado à la tête du Parti québécois. Point. C'est le but.
Mais ça, c'est pas sûr. C'est pas certain. J'ai regardé ça, j'ai lu ça, ce qui se passe là. Je pense que PKP, il est pas. C'est pas encore. De toute façon, les élections, c'est loin, là. C'est dans 3-4 ans. Fait que, l'eau va couler dans la rivière d'ici ce temps-là.
Que le gars se pète la gueule, là. Mais je t'ai pas dit que ça arriverait. Je t'ai dit que c'était ça qu'il faisait.
Oui, peut-être.
Et c'est évident que les gens de la radio maintenant, règle générale, c'est des Québécois couillons qui ont peur de tout.
Mais il y a quelque chose, il y a quand même les statistiques parlent quand même. Les statistiques nous disent que de plus en plus, la population, les jeunes, puis il y a moins de jeunes qu'avant, c'est évident. Il y a un autre phénomène, c'est que la radio Internet prend de plus d'ampleur. Des radios comme nous autres, là, c'est de plus en plus écouté. Puis les radios FM, ben les jeunes sont tous sur le téléphone.
Okay.
Le monde, ils nous écoutent. Combien tu penses qu'on a d'auditeurs qui nous écoutent au téléphone présentement? Je ne sais pas. On n'est jamais capable de savoir.
Il y en a
peut-être 50 000, je ne sais pas.
Je veux dire qu'en 1980, CHRC le matin, à 8 heures.
Non, on va se parler des souvenirs de CHRC.
Non,
on va se parler de ça après.
Avait 250 000 auditeurs.
Ah oui.
Bon, fait qu'on est loin, ce qui est moins que le total de la radio présentement.
Oui.
Donc, regarde. Connais-tu un jeune qui écoute la radio?
Il y en a.
Non.
Bon, oui, j'en connais.
Moi, j'en connais pas. Les jeunes.
Ils écoutent la radio par Internet, comme nous autres. Ben, ils vont écouter Chouet ou n'importe quel poste par téléphone.
Des podcasts.
Oui, des podcasts.
Des reprises. Puis ceux qui actuellement écoutent la radio sur leur téléphone, c'est parce qu'ils sont trop larges pour acheter des CD. Mais c'est la musique qu'ils veulent. Je pense pas qu'on puisse dire que demain matin, on pourrait vivre la radio Internet. J'ai toujours dit la même chose.
On fait ça pour s'amuser.
J'ai toujours dit la même chose au sujet de l'Internet. Bonne chance. Je veux pas te décourager. Mais si les gens voient dans quelques minutes... 10 camions de pompiers passer devant.
Mais tu ris de ça, tu ris de ça. Non, mais laisse-moi venir moi aussi. Non, mais tu ris de ça, mais le gars qui a fondé Facebook, là, il a commencé comme nous autres, des niaiseries de même, que je ne pensais jamais que ça marcherait. Puis à un moment donné, whoop, on se ramasse avec. Nous autres, il y a des gens qui nous écoutent en France, en Italie, en Suisse présentement, là, qu'on salue. Tu sais, la radio Internet, ça.
Bravo.
Mais c'est le futur de la radio.
Non.
Est-ce que selon toi, c'est le futur de la radio?
Si c'est le futur de la radio, je suis triste parce que.
Ben oui, c'est le futur de la radio.
La vraie radio, c'est une radio de proximité. Si je reprends ma phrase que Thomas, avant que tu m'interrompes, si tu vois 10 camions de pompiers passer devant ta maison,
oui, tu en passes souvent.
Tu n'ouvres pas l'Internet pour savoir ce qui brûle.
Non, c'est vrai. Ça, c'est absolument vrai.
That's all. Fin des émissions.
OK. À cette heure, on va parler des souvenirs de CHRC. D'abord, moi, quand je t'ai connu, j'étais à CHRC en 1975.
J'ai aucun souvenir de toi.
Ben moi, je me souviens de t'avoir vu à la Banque nationale quand j'ai changé ma paye, puis toi, t'avais changé ta paye.
Ah, c'est en bas.
Là, je t'ai dit, André, ben il y avait la Banque nationale en bas.
Ben ça
c'était déjà rendu à 21h36, sûrement, ouais, cette fois, ben oui.
Oui, c'est ça.
Mais moi, je travaillais de nuit, c'est pour ça que tu ne me voyais pas.
1680 rue Saint-Jean, t'as pas
non, 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 non.
C'est là que j'ai commencé, moi.
Ah oui?
1er juillet 70.
Ah oui? Ah, ben, je savais pas ça. Mais 21-36, moi, quand je suis arrivé là, en 75, ben, c'était des amis de la famille, les Pouliottes, entre autres, qui étaient propriétaires. Puis là, je me souviens, quand je suis arrivé là, les studios étaient neufs, les horloges Omega, les studios neufs, la console Maker Day à curseur. Puis là, après ça, ben moi, le matin, quand je faisais les dimanches, moi, je remplaçais. J'étais l'homme à tout faire, là. Puis à un moment donné, moi, c'est moi qui plaçais tes cassettes le matin. En écoutant la messe, là, la messe commentée chez les Franciscains, rue de l'Alverde. Tu te rappelles-tu de ça?
Moi, j'ai la rue de l'Alverde à l'époque, donc tu m'as déjà réveillé.
Ben oui.
Parce que mon contrat avec CHSC disait, si vous ne me réveillez pas et que je ne rentre pas, vous me payez pareil.
Fait que c'est moi qui te réveillais.
Donc, sur la feuille de route de l'animateur de nuit, il y avait à telle heure, on réveille Arthur à tel numéro.
À quelle heure?
Ah, attends un peu.
5h?
Ça devait être aux alentours de 4h30.
C'est ça, exactement. Donc, c'est moi qui, quand tu faisais me réveiller, c'est moi qui parlais en oncle. Mais en tout cas, c'est des souvenirs, mais moi, je me souviens qu'il y avait des cassettes à placer, là. C'est moi qui plaçais toutes tes cassettes, trois tracks, ouais. Là. Hey, ça, j'haïssais ça, mais en tout cas, ça faisait partie de la job. Puis là, j'entendais le curé, puis on était obligé d'écouter. Parce qu'on diffusait dans ce temps-là sur AM-FM, là. On était sur AM-FM,
mais lui, puis AM-FM, à TV. Choix et CHRC étaient...
Plus la TV.
...étaient alimentés de la même façon.
Télé 4 aussi, il y avait le signal de CHRC. Durant la nuit, quand je faisais des émissions, on était sur une espèce de réseau. Mais en tout cas, André, ça me fait plaisir. On va prendre une petite pause, on va écouter une tonne. Veux-tu un café?
Non, merci. Tout va bien.
Fait que vous êtes à l'antenne de Radio Fiatlux.tk, la radio indépendante, en direct du centre-ville de Québec. Ça me fait plaisir de recevoir André Arthur, qu'on disait à l'époque le roi des ondes.
Sur radio.fiatlux.tk.
Quelques minutes à ma vie, au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps, on vivait au rythme des saisons. Et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux, où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Et moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante. Et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Que quelques minutes à ma vie, au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Tout ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent, qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens dans la panique qu'on déclaré l'état d'urgence. Quand tous les océans ont englouti les îles et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages on lisait la détresse. Les gens ont dû se battre.
Alors, on est de retour avec André. Alors, c'est vraiment une émission très improvisée parce qu'on est en train de... Comment est-ce qu'on appelle ça? Du rodage technique?
Ça a l'air, hein?
On est en rodage technique. On a
tout l'air.
D'ailleurs, on était de retour depuis hier. Puis là, il y a des connexions, puis le producteur va venir. Il y a des affaires, il y a bien des fils à changer, toutes sortes d'affaires à faire. André, on parlait de tes balades en autobus. Pourrais-tu nous raconter des petites anecdotes? Moi, je me souviens qu'à un moment donné, tu m'avais conté le banc des innocents à l'autobus.
Oui.
L'autobus. Moi, il faut que je te raconte de quoi qui m'est arrivé. À un moment donné, j'étais dans le numéro 12 dans l'autobus, puis j'étais assis à côté sur le banc des innocents avec le chauffeur d'autobus qui était là. Tout d'un coup, le chauffeur, il s'étouffe complètement, là. Il s'étouffe, là. Puis là, il perd le nord, puis l'autobus ne marchait plus. Fait que là, je me suis levé debout, j'ai pris le volant, puis j'ai fourré les briques. Mm. Puis là, il était complètement comme... faisait comme une crise cardiaque.
Wow.
Puis là, sinon, on rentrait dans un arbre, on rentrait dans l'hôpital, à l'hôpital de l'Enfant Jésus. Mais je vais te raconter, le banc des innocents, ça a l'air de rien. Mais si je n'avais pas été là, nous autres, on s'en venait assez vite, puis on aurait rentré dans un arbre ou dans ce coin-là, l'hôpital de l'Enfant Jésus. Je me rappelle de ça, la 12. Ben, oui.
Effectivement, dans la communauté des chauffeurs d'autocars et d'autobus, le premier banc après la porte du côté droit, banc qui n'existe plus sur les véhicules urbains modernes,
non.
Et qui existe encore sur les véhicules de route, les autocars, c'est considéré comme le banc des innocents. Quand tu fais l'interurbain entre deux grands centres, là, à la minute où tu arrives dans un village, l'idiot du village, quand il prend l'autobus, il s'assoit là tout le temps, et le chauffeur, c'est son meilleur ami. Alors, il veut lui parler longtemps de toutes les choses qui l'intéressent. C'est un peu pénible. Mais ouais. C'est la raison pour laquelle les chauffeurs, entre eux, appellent ça le banc des innocents. Ce qui est toujours amusant, parce que quand on fait des équipes de sport, souvent les coachs s'assoient en avant. Patrick Roy, avec les remparts, s'assoit toujours là. Il a fait mettre un lazy boy à cet endroit-là. Puis quand on lui révèle... que pour nous, c'est le banc des innocents. C'est toujours amusant de voir la réaction.
Oui, mais ça n'empêche pas que... Combien tu penses qu'il y aurait eu d'innocence si moi, j'avais pas été là, assis là?
Ah, ben oui, c'est ça. Mais te rends-tu compte
de tout? Mais le bonhomme,
je te jure, là. De tout ce que le chauffeur a enduré avant que tu sois là?
Ben là, si moi, j'ai eu le réflexe de me lever debout puis de pogner le volant, je voyais que le gars, il était plus haut, là. L'autobus s'en allait.
Les mille idiots qu'il a enduré assis là avant que tu arrives, là,
ouais. Dans ce
temps-là, à aucun moment il s'est dit non, mais je te laisse là, puis c'est pas grave. Poirier s'en vient, puis lui, il va me sauver la vie, là, tu sais. Pas même ça marche.
Oui, mais dans ce temps-là, c'était la CTCUQ. Hein, c'était vraiment.
C'est vieux, hein?
Moi, je me souviens, à un moment donné, je travaillais de bonne heure le matin, puis à un moment donné, je connaissais un chauffeur. J'ai dit, passe-moi la don dans l'autobus, je vais la chauffer. Puis j'allais juste chauffer une, pas de licence. Illégalement, on était loin, on était à Bois-Châtel, là, en tout cas.
Wow!
Là, il dit, je l'ai essayé, puis c'était pas. C'est comme un char, tu fais plus attention.
Il faut savoir, avec un autocar, moi, ce que je conduis, là, c'est à 45 pieds, ça pèse 20 tonnes. Ça assoit entre 38 et
56. Ça a tous des power steering. Dans ce temps-là, c'était le bras, là. Chauffant, t'en souviens-tu des anciens autobus, les 1966?
À ce moment-là, tu te rappelleras que le volant était beaucoup plus large.
Le gars, là, fallait qu'il force.
Il était beaucoup plus large, le volant, pour avoir un meilleur levier.
Oui.
Maintenant, c'est un volant, le format d'une voiture, et pas de power steering, t'as pas le droit de rouler. C'est un majeur, là. C'est un arrêt immédiat.
Oui, mais dans ce temps-là, là, les chauffeurs d'autobus, là, je vais te dire une affaire, ils n'étaient pas gâtés ben, là. Quand ils étaient pognés, là, que ça n'avance pas, là, puis l'hiver, ben,
quand
fallait
j'ai commencé, il y a
20... tabarouette pour... L'as-tu déjà chauffé une d'une sorte ces années-là?
Quand j'ai commencé, il y a 24 ans, un des premiers véhicules sur lequel j'ai fait de la route, c'était une transmission manuelle, un 7 au plancher. Avec une cloche en céramique.
Mais quelle année?
Ah, mon Dieu, c'était probablement un véhicule de la fin des années 60.
C'est-tu le modèle qui descendait de même, qui avait un fan en arrière qui virait, là?
Non, ça, c'était, ça, c'était les anciens Prévost.
Les Prévost, quand, oui. Ouais.
Ouais. Mon plus vieux, là, c'était un MCI. Les gens qui connaissent la route, un MC9, là, avec une cloche en céramique et un 7 vitesses au plancher.
Ça roulait?
C'était à la fin de la journée, tu avais une jambe plus grosse que l'autre.
Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, André, là, ce que je vais faire, là, je vais te faire plaisir, je vais te faire écouter un extrait de Simi FM dans le temps que tu étais là.
Bon, mon Dieu.
Fais un montage, là, je vais le trouver. Mais avant ça, on va mettre une toune, on va être décontracté, on n'est pas pressé, on s'énerve pas. Alors, vous écoutez GFP en direct, vous êtes dans l'émission qui commence une nouvelle saison. Alors, on espère que ça va bien aller. L'année passée, ça a bien été. Cet été, on vous a offert quand même une programmation en balado. Là, on fait notre possible avec les moyens qu'on a. Donc, on va écouter une toune, là, une toune au hasard comme ça là, que j'ai trouvée sur le pif. Alors, vous êtes à l'antenne de radio. Oups, on va ajouter nos flûtes, là. Bon. Alors, salut André, comment ça va?
Rebonjour.
Bon, le son est tout est beau. On est en train de parler quand même de quelque chose à hors des ondes. La restauration,
j'ai on parle. On dit que la meilleure radio se faisait hors des ondes.
Le veau d'or.
Que si on commençait à enregistrer ce qui se passe hors des ondes à la radio, on aurait une bien meilleure radio.
Ben, à l'autre qu'il n'y a pas de.
Mais il n'y a pas grand monde qui aurait les couilles de le faire.
Ouais, c'est parce que la radio, on dirait que. Tu sais, c'est-tu vrai qu'il y a encore des machines dans des postes de radio à cette heure-là, qu'il y a un délai de couple de secondes? Ça fonctionne-tu encore, cette patente-là, de CRTC qui voulait, là?
Non, c'est pas CRTC. Le CRTC n'a jamais fait ça.
Ils demandaient pas aux radiodiffuseurs de mettre un délai?
C'est les propriétaires peureux qui font ça. Moi, les miens, là, mes derniers propriétaires, à ma demande, on enregistrait, puis ils l'écoutaient. Puis après ça, ils diffusaient, puis ils disaient « C'était bien bon ce que tu as fait. » Puis après ça, ils recevaient une plainte, puis ils paniquaient, disaient « C'était pas mal ce que tu as fait. Oui, mais tabarnouche, tu l'as autorisé, tu l'as entendu, tu as dit que c'était bon. »
L'avocat dit que c'est bon, puis là, après ça, les boss disaient que c'était pas bon.
Non, tu m'écoutes pas, là.
Ouais.
Écoute-moi quand je te parle. Les deux gars avocats, propriétaires de la station, écoutaient mes émissions avant de les diffuser.
OK.
Et après ça, quand ils recevaient des plaintes, ils disaient c'était pas bon ce que tu as fait. Il fallait pas faire ça. Oh, mais tu l'as autorisé.
Mais les faiseurs de plaintes, c'est à qui?
Ah, oh, n'importe qui.
C'est ça. Des fois, c'est souvent des gens qui ont du temps à perdre. Moi, je trouve que la radio, maintenant. Moi, je la trouve insipide, puis je la trouve plate plus que jamais, la radio. C'est rendu, là. Ils sont loin. Ils se sont éloignés de la plèbe, et c'est du peuple. Ils sont loin du peuple. Là, ils disent « Ah, appelez-nous, 6-7-0-9-0-0-0. » Puis là, finalement, ils répondent pas. Premièrement, puis s'il y en a un qui a fait ça, on ne le nommera pas. Au 93, dans n'importe quel poste de radio, ils nomment tout le temps leur numéro de téléphone, ils demandent aux auditeurs « Oui! » Et sauf que, si on parlait de débat d'idées, où ce qu'ils sont rendus, on est rendu au niveau des débats d'idées dans les médias. Si on parle de la radio, par exemple.
On peut débattre de n'importe quoi.
Toi, t'animais, André, t'animais point de vue, tu laissais ton. Toi, tu paysais sur le piton de tongue, 670-9080. C'est quoi votre commentaire?
Mais ça, c'était passé date à un moment donné. Ce que je disais, mais
pourquoi? Pourquoi ça serait passé date?
Parce que l'opinion du monde, on s'en fout. OK, là?
Oui, mais ça, c'est les patrons.
Mon opinion et l'opinion du monde qui appelle d'un poste de radio, on s'en fout.
C'est qui s'en fout pas?
Et je l'ai toujours dit, votre opinion puis la mienne, j'aime mieux la mienne. Mais si vous avez quelque chose à me révéler, à m'apprendre, là, je veux vous parler. Je veux pas savoir votre opinion, je veux savoir quelle information vous avez que je n'ai pas, que je devrais avoir. Appelez-moi. C'est drôle?
Oui, mais André, tu penses pas que le débat d'idées amène que... Moi, j'aime ça entendre les deux opinions. Contraire, pas contraire. Puis là, c'est là qu'à un moment donné, on peut se faire... Ce qui fait qu'on peut se forger une opinion, vraiment, là, que ce soit à radio ou dans les médias, quand tu lis de quoi, un texte, n'importe quoi, c'est le débat d'idées. Lui, il est d'accord, lui, il n'est pas d'accord. C'est pour ça que moi, je suis content de te recevoir ici, parce que... T'es pas d'accord avec moi, moi je suis d'accord. T'es pas d'accord avec moi, moi je suis pas d'accord avec toi, mais sauf on en débat, on est capable de se respecter. Puis de justement, c'est comme ça que souvent ça fait évoluer les débats dans la société. Ça peut les faire évoluer. Bien sûr.
La radio de téléphone et d'opinion, c'est mort depuis 40 ans.
Oui.
Tu peux fouetter ce cheval-là.
Ben, il y a Cogeco qui le fait encore.
Pour faire de l'opinion ou pour faire.
Ben, la nuit, des fois, il y a des moyens de quand l'autre se pogne avec l'autre, Fabie.
Excuse-moi, il y a 2000 auditeurs à la grandeur du Québec qui écoutent ça.
Tu penses, je sais pas.
Bon, tu peux le fouetter, ce cheval-là, pendant des semaines, il ne courra pas. Okay,
c'est vrai.
Fini, là. Par contre, parce que ces ligues ouvertes-là, c'était l'ancêtre de Facebook et de Twitter. C'est-à-dire, n'importe qui dit n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand, c'est censé être la démocratie. C'est pas vrai.
Ouais.
Ça n'a rien à voir. C'est pas ça un débat d'idées.
Ouais.
Un débat d'idées, c'est quand tu réussis à avoir des participants que tu as trouvés ou qui se sont manifestés et qui apportent des opinions structurées qui peuvent être contradictoires ou non. Ça, c'est un débat d'opinion. Et ça, il n'y en a pas à la radio.
Mais moi, je me souviens que toi, tu avais participé à une espèce de débat d'idées, si je me rappelle bien, c'était à Chise ou à CKRL, que tous les intervenants de la radio, chaque station de radio était représentée, c'était une grande table. Moi, j'avais écouté cette émission-là, je pense que tu étais là, tu t'en souviens-tu?
Aucun souvenir.
Alors, tous les gens des médias, là, tout le monde répondait, il y avait quelqu'un qui... Non, il y avait un animateur qui était là, qui posait des questions, puis il y avait comme un débat.
Georges Fernand,
ce qu'on devrait faire pour avoir... J'ai pas rêvé à ça, je l'ai écouté. Je l'ai écouté.
Non, j'étais pas là.
Bon, t'étais pas là, mais en tout cas, il y avait plusieurs représentants de médias, d'animateurs de radio, de journalistes qui étaient là. Journaux, radio.
Que je voudrais pas d'un pays...
Ça s'engueulait, je peux te dire à la fin que ça...
Je voudrais pas d'un pays qui serait gouverné par des animateurs radio, parce que, règle générale,
c'est des journalistes, il y en a quelques-uns.
C'est des has-been that never was. Mais la radio, telle qu'elle aurait pu être, n'existe plus.
Oui.
OK? Et c'est Montréal qui nous a entraînés là-dedans,
ouais,
en premier. T'écoutes des émissions du matin à Montréal, mais Paul Arcand pour pas le nommer, et tu as rapidement l'impression que le message, c'est « Ouf, j'ai parlé de ton restaurant à mon émission ce matin, j'ai dit que c'était très bon, j'ai dit que le service était excellent, as-tu de la place à 8 heures? » Tu sais, ouais, c'est l'espèce de compagnonnage constant. T'es mon chum, je parle de toi à radio. Ce n'est pas le cas. La radio de Québec a résisté à ça longtemps à cause de certains propriétaires qui étaient courageux. Je te racontais tantôt que le premier boss que j'ai eu, Aurel Pelletier, c'est lui qui a fait la différence entre Québec et Montréal pendant 20 ans à Québec, qui a orienté la radio de cette façon-là. Mais c'est mort, ça, arrête, là.
Mais moi, je me souviens de toi, quand tu faisais de la radio avec Nicolas Cartina puis Christian Thibault. Y avait-tu quelque chose qui était le fun quand tu faisais le show avec Christian Thibault?
Oui.
Quand il nous présentait les nouvelles, les tunes et tout ça.
Ouais.
Ça, c'était, j'écoutais ça souvent. Là.
Bon, mais c'est
Christian,
ça,
j'ai travaillé avec à CJRP.
C'est ça l'idée de la radio, c'est de trouver un talent, de l'exploiter, de le présenter au monde et de faire plaisir. Ça, c'est de la radio.
Ah oui.
À ma connaissance, il n'y en a plus beaucoup de ça.
Mais Christian, qu'est-il devenu? Est-ce qu'il vit ça encore?
Il est comme nous autres, il a vieilli, il est tranquille. Là.
Mais en tout cas, moi, comme gars de radio que j'ai connu très jeune, moi et Christian, je les connais à CJRP, je pense que j'avais peut-être 18-20 ans. Mais je sais que quand tu participais avec lui, là, il est tout ce qu'il y avait de nouveauté, n'importe quelle musique, franco-anglo-américain, et il arrivait avec des tracks sonores, des CD, il arrivait avec des cassettes.
Il a animé pendant longtemps à la radio ce qu'on appelait l'homme de 5 millions de souvenirs.
De 6 millions.
6 millions, hein.
De souvenirs CHRC, ouais.
Et c'était d'une richesse incroyable. Lui faisait un duo infernal avec Robert Thomassin.
Ah oui?
Et ça, c'est deux gars qui ont fait de la radio toute leur vie sans jamais travailler à la radio. Ils ont toujours fait ça par à côté.
Pour le fun.
Christian était un spécialiste de l'enseignement. Robert était un fonctionnaire. Ils ont toujours fait de la radio en sideline pour le plaisir. Et je sais qu'à un moment donné, il s'était spécialisé dans les faits divers.
Mais Monsieur Pompier, j'ai travaillé avec un peu CJRT, ses reportages.
Christian Thibault était...
Ah, tous les feux qu'il y avait, il était là.
C'était... Un pompier.
Fait divers.
Un pompier émérite. Ouais, même pas. Les accidents d'auto, ça n'intéressait pas.
Les tchats en compagnie.
Et, ah ouais. Ces gens-là ont marqué la radio de Québec. Des gens comme ça. Les stations de radio n'ont même plus de journalistes.
Mais c'est rendu, c'est triste, là. Il se passe de quoi?
C'est drôle parce que les stations de radio, notamment nos gens de Choix FM, passent leur temps à chier sur les journaux sans admettre que toutes leurs nouvelles sont copiées dans les journaux.
Ben oui.
Et que finalement...
ils lisent du Québécois, finalement. Pis...
Ils lisent les journaux et ils prétendent que c'est un service de nouvelles. Ça n'existe plus, des services de nouvelles.
Puis ils font des fake news. Regarde, Robbie Moreau, là, en fin de semaine dernière, là, lui, il a dit que la dernière voix à Simi FM, c'était lui. Mais moi, je vais te prouver, on va écouter, là.
On va faire écouter Simi FM, c'est mort, arrête donc, là.
Non, mais je vais te faire écouter... je vais te faire écouter...
On va pas de vieilles affaires de même.
Je vais te faire écouter un montage, là.
Ouais.
Tu vas entendre les deux dernières minutes qui ont été en onde à Simi. Ouais.
J'ai entendu ça, c'était triste, mais c'est...
Puis, Moreau, non, mais ce que j'ai pas aimé, je vais te dire franchement, moi, ce que je déteste, c'est les gens qui mentent. Puis lui, il a dit en onde que c'était lui, là-dedans.
Pourquoi tu donnes de l'importance à Robbie Moreau comme ça?
Je donne pas d'importance.
C'est ce que tu viens de faire pendant une minute.
Oui, mais je donne pas d'importance.
C'est pas important, Robbie Moreau. Les gens qui t'écoutent en Italie présentement, là.
Ouais, c'est vrai.
Who the fuck is Robbie Moreau?
Ouais, mais ils diffusent en Italie, ça, toi aussi.
Bon, oui.
Bon, okay. Allez, on va écouter l'extrait.
Soit fini à 9h30. Bon, c'est toujours la même chose quand on parle de politique. Les émotions. Ah, oh, je vais me faire plaisir. Je vais voter pour Gilles Duceppe. Dans 20 ans, si j'apprends qu'il travaillait pour la GRC, ben je dirais, ah ben, go, allez, non, je vais te bourrer en gros.
On va vous mettre les deux dernières minutes. On n'écoutera pas l'extrait au complet. Là. Je vais faire plaisir à André. On va écouter les deux dernières minutes que vous avez entendues en onde à Simi. Ça fait...
Arrête de fouetter les vieux chevaux de main. Parle-moi du présent. Parle-moi du futur. Simi.
Le ciel est noir et tout ça, c'est pas un oiseau de malheur. Ah oui, je suis pas comme, tu sais, dans un jardin, vous voyez tout le temps un bonhomme, là. Un épouvantail. Vous savez que dans un jardin, il y a tout le temps des épouvantails. Pourquoi? Parce que des épouvantails, ça fait peur aux corneilles. Parce que nous autres, on veut pas se faire manger ce qu'il y a dans notre jardin. Alors c'est pour ça. Ça sert à ça, un épouvantail. Alors c'est Georges qui vous dit salut, qui lève son chapeau, qui vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Allez pas trop loin, parce qu'il annonce pas du beau temps. Il annonce du mauvais temps, mais c'est de la pluie, il va faire chaud. Mettez-vous une imperméable. Promenez-vous en parapluie, mais promenez-vous pareil. Ciao, à demain. Même heure, même poste. 15h30 à 18h. Au show du retour, Georges Fernand Poirier, en direct. Salut, bye, à demain. Bye. On est de retour sur les ondes de Radio Fiat Lux.
Si on peut revenir dans le présent du moment d'asseoir.
Absolument, je suis d'accord avec toi.
Il faudrait quand même souligner la mort d'un gars extrêmement important dans l'histoire de la radio et de la télévision au Québec. Pierre Nadeau est décédé à 82 ans ce matin à Montréal.
Oh. Ah oui?
Et c'est Pascale Nadeau, sa fille, qui a annoncé ça à tout le monde dans un message sur Twitter qui se lit ainsi. Le cœur brisé, je vous annonce que ce matin, tout doucement dans mes bras, est décédé mon courageux, résilient et combatif père, Pierre Nadeau. Je te souhaite le plus beau des voyages. Je t'aime. Nadeau, depuis presque 10 ans, souffrait de la maladie de Parkinson.
OK.
Et ça l'avait rendu à toute fin pratique impotent. Mais c'est quand même un gars, un homme qui a marqué la radio, la télévision. Il a travaillé à Radio-Canada, à TVA, il a travaillé à la radio française. Et c'est un gars qui a fait toute cette carrière-là sans faire tous les compromis que habituellement on doit faire à Radio-Canada. C'est peut-être la raison pour laquelle le Radio-Canada d'aujourd'hui n'embaucherait pas Pierre Nadeau, qui est pourtant un héros.
Pourquoi?
Parce qu'ils sont bien trop heureux, bien trop couillons. Ils sont tellement maintenant affiliés à la pensée unique,
ouais,
que si Pierre Nadeau posait
des questions... Ils ne sont pas tout seuls. Il y en a d'autres. C'est
oui,
FM à Québec.
Radio-Canada, c'est la ouais, machine. Là. Si Radio-Canada avait un Pierre Nadeau aujourd'hui, le gars ou la fille ne pourrait pas survivre.
Oui.
Mais en tout cas, je pense une nouvelle... Moi, ça m'a touché d'apprendre la mort de Pierre Nadeau.
C'est sa condoléance à tous les gens de Radio-Can.
C'est probablement un des plus grands communicateurs de l'histoire du Canada.
Oui, moi, je l'écoutais, moi, je me souviens, il a fait des topos.
Format 60.
Format 60, mais il y en avait un autre qui est diplomate, qui était bon, qui est diplomate en Chine. C'est quoi son nom? Lépine. Jean-François Lépine.
François Lépine n'est pas dans la ligue de Pierre Nadeau. Come on!
Non, mais moi,
je
trouvais qu'il faisait des bons topos.
Il faisait des bons topos. Oubliez pas que Pierre Nadeau avait prédit la crise d'octobre.
Oui.
Dans une entrevue qu'il avait faite en Algérie avec deux Québécois qui s'entraînaient avec les terroristes palestiniens.
Ça aurait été quoi, sa source?
Peu importe. Il les a rencontrés, okay, il les a filmés, il leur a parlé, il a fait une entrevue.
Il savait qu'il était là.
Il l'a diffusé, puis c'était, je crois, un an avant la crise d'octobre.
Oui. Ça fait que c'est pas...
C'est ça, un journaliste.
Mais c'est, moi, un des meilleurs livres que j'ai lus sur la crise d'octobre, c'est celui de Simard. Jean-François Simard, c'est justement le film, c'est Octobre. Je ne sais pas si tu l'as lu, ce livre-là. Moi, je l'ai lu en pocket, c'est écrit en petit, là. Lui, il raconte que, dans le fond, il y a eu beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de gens qui ont étudié ça, puis ils ont fini par comprendre cette théorie-là. J'aimerais ça avoir ton opinion là-dessus. Bien, la théorie qui serait que la porte n'a jamais été tuée par le FLQ, il était victime d'un accident, il voulait se sauver, puis il se serait étouffé avec sa chaîne en or. Est-ce que qu'est-ce que tu penses de cette théorie-là?
Je pense que c'est des trous de cul qui propagent ces idées-là. Et je
pense ça a été écrit par plusieurs. Même, il y a un sénateur qui l'a révélé.
Lequel?
Faudrait que je regarde dans ma filière. Là, il y a un sénateur à Ottawa que lui-même n'est pas pour l'indépendance. C'est pas un indépendantiste. Là. Lui, il a affirmé que il était ministre de la Sécurité publique ou quelque chose de même. Il était assez proche de... Il a dit que ça aurait été accidentel. Donc, je ne sais pas si toi, qu'est-ce que tu en penses?
J'en pense que on ne pourra pas réécrire l'histoire et que ces gens-là ont fait la preuve qu'ils étaient des criminels. Et ils ont fait bien peur à tout le monde. Puis ça ne sert à rien par après de dire qu'ils n'étaient pas si pires. C'était des voyous.
Ouais.
C'était des parfaits. Les gars du FLQ étaient des parfaits voyous.
Bien, c'est des gens qui... On dirait qu'ils faisaient partie d'une mouvance mondiale. Pareil comme la crise de mai en Europe, partout. Il y avait une crise... Il y avait une mouvance comme ça qui était comme ça. Sauf que, si tu te rappelles bien... c'était l'ère où c'était l'ère d'une révolution tranquille, les gens commençaient à se libérer, puis c'était une mouvance aussi, le fait de vouloir être maître chez nous. C'est le fameux maître chez nous de Jean Lesage. J'ai commencé là, un petit peu, là, à être maître chez nous. Ça, c'est Jean Lesage qui propageait ça. Là.
Ça, c'est longtemps avant la crise d'octobre.
Exactement.
Et,
ça a commencé de même.
En tout cas, si tu penses que la crise d'octobre, c'était pour faire avancer l'indépendance, je pense qu'il manque 2-3 livres dans ta bibliothèque.
Ça se peut, probablement, qui n'en manquerait pas. Je pense qu'on n'aura jamais assez de livres, on n'aura jamais assez de livres.
Ah, c'est ça.
Et puis, plus qu'on en lit, plus que... Mais tu sais que la plupart des livres sont plates. En passant, quand tu vas te chercher un livre, là, c'est rare qu'il est bon, qu'il est intéressant. Il y a le trois quarts des livres qui sont plates, c'est de la chimère, c'est des menteries, puis c'est des romans là, de savon. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
Effectivement, mais c'est la même chose à la radio, c'est la même chose à la télévision. On vit dans une société au Québec qui est culturellement appauvrie.
Oui.
Pourquoi?
Ben,
parce qu'on n'est pas nombreux et on n'est pas très courageux. Je pense que c'est assez facile de démontrer que génétiquement, le Québécois, c'est un couillon. C'est un peureux. Et que c'est vrai également du Canada anglais. Puis il y a une raison à ça, puis c'est historique.
Il y a peut-être une parcelle de vérité dans ce que tu dis, mais par contre, je trouve que l'enseignement, la pédagogie maintenant, devrait s'enseigner autrement. On devrait mettre un petit peu plus de...
Ça change pas au fait que...
Non, mais je veux dire la discipline, on devrait mettre de la discipline, de savoir-vivre, le savoir... transmettre le savoir-vivre, la bienséance, les bonnes manières aux gens. Les gènes, ils n'ont pas d'éducation.
Génétiquement.
Oui, génétiquement.
Dans nos gènes, là,
oui.
Les Québécois, c'est des peureux.
Tu vas
m'expliquer pourquoi.
Pourquoi?
Quand les Anglais ont battu les Français après une dure bataille de 19 minutes sur les plaines d'Abraham, OK? Les Français ont rapatrié en France les généraux, les managers, les administrateurs, les professeurs, tout ce qui avait de l'allure au Québec. Et a été rapatrié en
France. C'est pas les Français, qui ont...
Non, laisse-moi finir.
Oui.
Les Français ont rapatrié en France tout ce qu'il y avait de qualité ici. Qu'est-ce qu'ils ont laissé ici, nos ancêtres? Ceux qui couchaient dans l'étable.
Oui.
Et génétiquement, on est les descendants des esclaves de la colonie française. Donc des gens qui, par intérêt ou par manque de courage, s'écrasent à la première occasion. Et les Canadiens anglais ont le même problème. Parce que le Canada anglais...
Non, mais le problème qu'on a, André, dans le fond, là, on dit que les Québécois sont couillons, mais il y a un autre phénomène qu'on n'a pas analysé ensemble, c'est que le manque de culture au niveau de la connaissance de notre histoire. C'est quoi notre histoire? C'est quoi qui s'est passé ici? C'est quoi qui est arrivé vraiment? Il s'est passé bien des choses. Mais quand tu analyses le Québec, si tu veux vraiment avoir une opinion, vraiment, si tu veux avoir une vision qui est carrément... Qui peut être différente, là. Tu liras les conquérants puis les jésuites, là, l'histoire des jésuites au Québec, là, à partir de 1600, c'était des témoins. Eux autres, ils étaient là, sur le terrain. L'histoire des conquérants puis les revenants.
Tu l'as pas... comme les curés.
Ça, peu importe.
Mais c'est ces gens-là que tu cites, là.
Ouais, mais...
Les enculeurs de petits Indiens.
Oui, d'accord.
Les missionnaires.
Oui, mais je suis d'accord avec ton opinion, mais regarde, des enculeurs, il n'y en a pas juste d'un curé, là. Il y a des docteurs, des avocats qui sont enculeurs.
Je m'excuse, mais ils sont en majorité chez les curés.
C'est dans ce temps-là, c'est à l'époque.
Non, maintenant aussi, hein.
Peut-être, en tout cas.
Bon, écoute, là, ouvre-toi les yeux. As-tu vu le film Spotlight?
Non.
S'il vous plaît.
Je l'ai vu vite de même, oui.
Vite de même? Comment tu peux voir ça vite de même?
Non, je ne l'ai pas vu.
Tu l'as vu ou tu ne l'as pas vu?
Je l'ai pas vu.
Fernand?
Je l'ai pas vu.
Bon. Loulé, Spotlight.
Je l'ai. Je l'ai ici.
Ça te définit le clergé catholique d'aujourd'hui, héritier du clergé catholique d'autrefois.
Mais moi, je parlais...
Alors, si tu me cites les curés
comme étant
la source... de la culture québécoise.
Non,
c'est pas ça que j'ai dit. Mais on est les descendants des enculeurs de
Pisanier. Ça fait partie de... Je n'ai pas dit que c'était ça. J'ai dit ça fait partie de, primo. Secondo, je vais te dire une chose. Moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années pour l'Église, OK? Alors, contrairement à ce que tu penses, là, il y a du monde là-dedans, là. Puis moi, ce que je trouve triste, puis j'ai parlé de ça avec quelqu'un, justement, il n'y a pas longtemps. On s'attaque à l'Église, pourquoi? Parce qu'ils ont des sous, parce qu'ils ont de l'argent. Mais le quidam ordinaire, là, qui reste, mettons, qui habite, je ne sais pas, à Saint-Roch ou n'importe où, là, puis qui a pogné des petits gars, tu n'entendras pas parler.
Non, parce qu'il n'est pas regroupé.
Là, qu'on veut s'attaquer à une organisation, on veut avoir leur argent. Non, c'est une question pécuniaire.
C'est une organisation qui exclut les femmes.
Ouais.
Qui fait travailler des hommes.
Mais ça, c'est...
C'est
séculaire.
Laisse-moi finir. Qui fait travailler des hommes déguisés en femmes avec des jupes, des soutanes, OK? C'est pas n'importe qui. Et moi, chez les curés, je suis beaucoup plus sévère envers la majorité des curés.
T'as raison.
T'as un peu.
T'as raison dans un sens.
Qui ont laissé les pédophiles agir sans intervenir, que les pédophiles qui, eux, étaient des malades. J'ai été chez les frères. J'ai vu chez les frères.
Moi aussi, j'ai été.
J'ai vu des enculeurs de petits gars.
T'es allé dans la même école que moi.
Je sais pas. J'ai vu des enculeurs de petits gars ouais. chez les frères.
Mais ça, c'est pas acceptable.
Et eux, je les condamne, mais pas tant que ça. Ceux que je condamne, c'est la majorité des frères qui savaient qu'on se faisait taponner et qui ne sont pas intervenus.
Ouais, ça, c'est...
Et les bons Québécois peureux. OK. Quant à l'histoire du Québec.
Non, mais moi, et... ce que je veux te faire comprendre, là, c'est que oui, c'est vrai, l'Église a eu ses torts, il y a eu des crosseurs, il y a eu des mangeux de marde là-dedans. Mais mets-toi à la place de ceux. Regarde, c'est une minorité, là. Mets-toi à la place de ceux qui sont là, puis qui font un bon travail, puis qui sont corrects, puis qui sont honnêtes. Moi, j'en ai deux curés dans ma famille. Puis c'est pas des pédos, puis ils sont pas comme ça. Ils ont travaillé, okay. Ils ont aidé du monde
alors,
toute leur vie.
Tes deux curés que tu connais,
ils sont pas pédos.
Ils sont pas pédos.
Non,
combien ils en ont dénoncé de pédos?
Ben moi,
pas un.
Moi mes cousins, ils faisaient...
On n'en a rien dénoncé.
Mes cousins, ils travaillaient dans la pastorale hospitalière. Donc, eux autres, ils allaient voir des gens pour, à la fin de leur vie, puis etc. Donc, c'était pas le même monde. Okay.
C'est drôle, hein? On se rend compte...
C'est gros, l'Église.
On se rend compte que quand il y a un pédophile, tout le monde est au courant, personne parle. Alors, tes deux curés que t'aimes bien, là...
Ben, c'est mes cousins.
Tes cousins, ils en ont dénoncé combien de pédophiles?
Je pourrais pas te dire.
Ils ont appelé la police combien de fois dans leur carrière pour dire que leurs collègues curés enculaient des enfants de cœur?
Ouais, mais il travaillait pas dans ce branche-là. Là,
tu sais qu'il était pas au courant.
Non, il travaillait avec
des vrais Québécois.
Non, mais écoute-moi, là, tu vas comprendre. Il travaillait avec des patients malades, mourants. Donc, c'est la pastorale hospitalière, là, tu connais ça, c'est des gens. C'est comme des infirmiers qui vont, à la fin de vie, d'accompagner des gens qui sont en train de mourir. Donc, je ne pourrais pas te répondre à ta question.
Tes deux cousins, là, ils n'étaient pas à l'hôpital la nuit, hein? Il était dans un presbytère, hein?
Non, il était en fonction à l'hôpital avec le gouvernement.
Nuit et jour?
Les employés du gouvernement, ben oui.
Il logeait où?
À l'hôpital.
Il couchait à l'hôpital?
Oui, une chambre à l'hôpital, devoir.
On se demande pourquoi on manque de chambre, mais règle générale...
Ben, il y a juste un aumônier d'un hôpital, il n'a pas 50 chambres. Là.
Les curés, là.
Oui. Toi, tu sais que tu n'aimes pas les curés.
Non, je déteste les pédophiles et je déteste encore plus... ceux qui protègent les pédophiles, c'est-à-dire les autres curés.
Ouais. Moi, je suis d'accord sur ton point qu'on ne doit pas accepter ça aussi, puis tu as entièrement raison. Mais ce que je veux qu'on mette en relief aussi, c'est de se mettre à la place de ceux qui travaillent là, qui font une bonne job, qui sont honnêtes. C'est pas drôle. Mets-toi à leur place. Mets-toi à leur place.
Ça,
ils n'ont rien à voir là-dedans.
C'est pas vrai.
Ben moi, j'ai travaillé pour une communauté religieuse.
Oui, puis ils sont restés silencieux.
Pendant des années.
Rends-tu compte que le numéro 2...
J'en ai jamais vu, là, ce que tu me dis. Là.
Où est-ce qu'il est?
Ce que moi, j'ai jamais vu.
Ben t'as pas cherché fort.
Ben moi, je travaillais dans une librairie. OK, puis je faisais le ménage, je m'occupais de la... changer les lumières, puis j'ai travaillé pendant 10 ans, là, dans une communauté religieuse.
Tu n'as jamais vu
nous autres, on donnait des cours, il n'y avait pas de jeunes, on donnait des cours.
Le numéro 2...
On vendait des livres.
Le numéro 2...
On vendait de la papeterie, t'as connu ça, Librairie Québec.
Le numéro 2 du Vatican...
T'as connu ça, Librairie Québec?
Non. Bon. Le numéro 2 du Vatican...
Il n'y avait pas de jeunes, là, il n'y avait pas de...
Le numéro 2 du Vatican, il couche où, à soir?
Je ne sais pas, mais il s'est fait arrêter. C'est fait arrêter.
En prison, en Australie.
Ouais, c'est ça.
Le cardinal Pell, P-E-L-L.
Tant mieux, ils l'ont pogné. Mais moi, j'ai trouvé que le pape a été correct. Il veut dénoncer ça. Il a sorti des... Il y a une nouvelle réglementation. Là. Ben, je ne sais pas si tu as vu ça. Là. Tu l'as probablement que tu as lu comme moi. Là. Fait qu'on va faire une petite pause musicale, puis on va faire baisser la température un petit peu. Parler de clergé, là, il faut faire attention à ce qu'on dit. On est en onde, pareil.
C'est des fumistes... Et c'est des complices.
Il y a du bon monde puis du mauvais monde dans toutes les branches.
Tu veux dire qu'il y a des innocents là-dedans qui font semblant de rien voir?
T'as raison. Probablement. Alors qu'on va écouter une bonne vieille toune là, des années 60 dans le temps qu'on allait au Costco manger un bon hamburger pis un coke.
Oh, clap your hands, clap your hands. The time to rock is getting old. Now clap your hands right through.
dress and clothes. This is the dance that is the most. Oh, face to face, you gotta stand and get the big beat from the band. Clap your hands, clap your hands. You've got the beat, you're in the groove. Don't go away. Let's get together once again.
Thank you.
est de retour. Je suis avec André. André Arthur, on se parlait là que moi j'ai fait du piquetage pendant 2 ans devant CJRP. C'est qui était le piqueteur qui était avec moi?
Qui?
François Paradis, qui est président de l'Assemblée nationale.
Oh, wow.
Maintenant. Ouais. C'était mon partenaire avec Lise Moisan, que tu as connu peut-être, qui était disquaire. Elle était à discothèque à CJRP.
Il y avait du bon. Quand je suis arrivé
à CJRP. Il y avait Alain Pelletier. Alain Pelletier, tu l'as connu?
Oui. Quand je suis arrivé à CJRP, bien après ça, il y avait quand même du monde de qualité là. Mais je me souviens aussi de Alain Vézina, qui avait été embauché durant la grève. Et qui avait changé de nom pour ne pas faire casser ses vitres.
Pas se faire casser la gueule, oui.
Il s'était appelé Claude Leclerc.
L'inspecteur Leclerc. Il travaillait pour toi, lui.
Ben, il travaillait pour la station.
Ah, lui, il était SCAB. On appelait ça de même dans le temps.
Il a travaillé durant la grève, puis il a changé de nom, puis il a gardé son faux nom jusqu'à temps qu'il quitte la radio, puis il a repris son vrai nom. Il est devenu, il est haut fonctionnaire dans le monde scolaire maintenant.
Ah oui? Ouais.
Ben, je ne sais pas s'il a pris sa retraite.
Ben, il était, comme journaliste, il était bon avec toi.
Il était
tout le temps sur le terrain. Puis moi, je me souviens que quand on était en grève, justement, tu travaillais à Télé 4, puis l'information, puis tu avais ton 4x4 Bronco. Puis là, tu avais fait partir tes lumières bleues, puis tu criais, puis nous autres, il faisait fret ce matin-là, puis tu nous avais encouragés. Là, le monde, il était content de toi. Puis moi, après ça, je m'étais acheté un Bronco. Après ça, j'ai eu deux Broncos.
C'était une bonne machine.
Hey, 302 là-dedans.
Bonne machine.
Hey, c'était 302 Américains qu'il y avait là-dedans. Là.
En plein hiver, dans les tempêtes, ça un Bronco 4 roues motrices avec des chaînes sur les 4 roues.
Oui, moi j'avais tout ça. Là. Puis là, quand je survenais à CJRP en 81, ils m'ont réembauché. Fait que c'est devenu le mobile de Radio Mutuelle. J'avais mis comme une affaire CJRP avec des antennes. Puis moi, je prenais mon Jeep pour faire des reportages. Puis là, finalement, il m'avait donné un contrat, c'était à X montant. Mais là, il voyait que je trouvais tout le temps des nouvelles, puis j'étais à quelque part, puis que j'étais payé à l'heure. Mm. Fait que là, il voyait que ça minotait vite. Fait que ils m'ont payé, ils m'ont dit bye bye, Georges. C'est arrivé comme ça. Et le contrat, je pense, c'était 3 000 $. Là, ils voyaient que j'étais en train de dépasser le 3 000, fait qu'ils m'ont payé, puis merci, bonsoir. Ah, ça, c'est le monde crosseur de la radio, le siège éjectable. Siège éjectable.
Je pense pas que ce soit l'apanage exclusif de la radio, mais il faut quand même se dire, à la base, que les gens riches, c'est pas parce qu'ils sont riches qu'ils sont mesquins. C'est peut-être parce qu'ils sont mesquins qu'ils sont riches.
Oui, mais ça donne quoi d'être riche? Tu vas mourir, tu sais, à un moment donné. C'est, mon frère est décédé là, en fin de semaine, tu sais. Il a 44 ans, tu sais. Tu sais, dans la vie, là, à un moment donné, moi, je me dis, il faut quand même être philosophe un peu, se dire, bon, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, demain, je vais être là, peut-être dans 5 ans, je serai plus là, sauf que si on est capable de construire, faire des choses pour aider le monde, pour aider la société, comme le réveillon de Noël, ben moi, je passe la nuit avec le monde dans le temps des fêtes à Noël à la radio, puis le monde aime ça, puis on essaye de créer l'étincelle de joie au cœur de chacun pour apporter de la joie et du bonheur au monde. Puis ça, si on est capable de continuer à le faire, puis on est capable de continuer, ben chapeau.
Ben oui. Moi, mon rêve, c'est de mourir pauvre.
Ben moi, je suis pauvre. Je suis correct de même.
C'est ça.
Je suis un pauvre riche. Ça fait drôle à dire, un pauvre riche, là, mais quand tu sais ce que c'est qu'être riche vraiment, puis quand tu as vécu là-dedans, là, puis tu regardes ça aller, là, Le monde est matérialiste aujourd'hui, le téléphone d'en face. Moi, comment que ça arrivait de fois à la rue Saint-Jean que j'étais distrait, moi, tout, puis il y en a un qui me rentre dedans, j'y fonce dedans, ils ont un téléphone, ils regardent même pas ce qu'ils vendent.
C'est un problème de richesse, c'est un problème.
Ben oui, ils ont des téléphones à 1 000 $. J'espère qu'ils doivent avoir de l'argent un peu, là.
Pas sûr que les téléphones sont à 1 000 $, là. Avec un forfait Vidéotron ou Bell, tu peux avoir un téléphone de 1 000 $ pour 50 $. Il faut pas...
Ça dépend quelle sorte de téléphone.
Pas grand rapport.
Et toi, comment tu vois ça, le rapport en société, là, le rapport par rapport à l'argent, puis les gens, comment tu vois ça? Tu penses-tu que le monde est rendu trop matérialiste, puis qu'il devrait...
Il n'y a rien de neuf là-dedans. Là. Je me méfie toujours des gens qui disent « Ah, c'est devenu intolérable, ou c'est devenu comme ci, ou c'est devenu comme ça. » La société n'a pas changé tant que ça. La nature humaine ne change pas. Elle est, à toute fin pratique, immuable. Il n'y a qu'un problème, c'est qu'on est trop nombreux, ça fait trop de pollution, mais ça, c'est un autre problème.
Mais qu'est-ce qui va arriver avec ça? Mais ben, pour changer de sujet, on fait du coq à l'onde. Si tu penses à ça, les GAFA, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Le nerf de la guerre, c'est les GAFA qu'on veut pas imposer, puis comment est-ce que les gouvernements vont faire, vont s'y prendre pour être capable de dénouer cette impasse-là?
Il faut qu'on soit rendu bien bas dans notre estime de soi pour croire que des taxes supplémentaires vont régler des problèmes.
Oui.
OK? C'est évident qu'une taxe, c'est une façon de déplacer la richesse vers quelque chose. Mais si tu regardes au Canada présentement, au Québec en particulier, c'est que l'avenir de nos jeunes est complètement bouché par le fait que s'ils essayent d'avancer un peu dans leur carrière ou dans leur réalisation, ils vont tout simplement perdre de plus en plus au gouvernement qui vient sans arrêt les taxer.
Oui, mais c'est une bataille de monstres, là. C'est des monstres, ce monde-là, là. C'est des monstres. Ils sont monstrueux, là. Les GAFA. Quand je parle des GAFA, je parle de Facebook, je parle d'Amazon.
Ça te dérange, là?
Non, ça me dérange pas. Bon, ben alors, moi, je te demande par rapport à la situation problématique de la presse présente. Ils se font voler, ils se font skipper. Je vais prendre un terme anglais, ils se font skipper le travail qu'ils font, puis eux autres, ils ramassent ça gratuitement. Là. C'est ça la problématique. Si tu regardes Denise Bombardier, c'est lui aujourd'hui, entre autres, Denise Bombardier, puis d'autres l'expliquent clairement, comment les gouvernements du monde entier, la France a commencé. Les Français, ils ont commencé à taxer les GAFA. Et puis là, les GAFA commencent à se plaindre. J'ai un article, là, je vais te le montrer. Là. Puis là, ces gens-là, ils sont bardés d'avocats de toutes sortes, puis ils ont les moyens, puis ça va durer comment, puis ça va se régler comment.
Va être réglé par une taxe sur les GAFA?
Le problème du skippage d'informations qu'on va chercher gratuitement, que eux vont chercher, et puis que les entreprises de presse québécoises, comme la presse, toute la presse en général, se font skipper leur information, tout ce qu'ils diffusent. C'est ça, c'est une moyenne, mais la problématique...
Si on taxe Facebook, la presse va être plus lue?
Moi, ce que j'ai entendu...
Elle va être moins plate?
Moi, ce que
elle va être moins... unique?
Absolument
c'est
pas.
C'est pas pour rien que les médias crèvent de faim. C'est parce qu'ils sont plus écoutables, ils sont plus lisables.
Ouais.
C'est parce que c'est de la merde. C'est parce qu'une petite élite
a pris
le contrôle de nos médias, puis le public s'est distancé de ces médias en disant « Je ne me reconnais plus dans le soleil, je ne me reconnais plus dans la presse, donc je les achète plus, qui mangent de la merde ». C'est juste ça, là. Ça n'a rien à voir avec Facebook.
Mais le problème n'en demeure pas moins que le problème qui est soulevé, je parle pas juste de Québécois, je parle de la presse, de la globalité des médias qui souffrent au Québec. D'ailleurs, Continental, là, ils ont fermé plusieurs là, journaux. Là. Donc, la problématique, c'est que, ce qui semblerait le cas, c'est que les Français, eux autres, il semblerait qu'ils seraient prêts à négocier. Les GAFA, ils seraient prêts à offrir un montant d'argent
est-ce
à payer. Ils n'ont pas dit qu'ils ne payeraient pas.
Ça n'a pas de bon sens, ton argument, là. Penses-tu que la presse, le soleil et les journaux en général vont devenir moins cons parce que Facebook est taxé?
Non.
Non. Trouve-moi un jeune qui lit le journal.
Ouais.
Il n'a plus. Alors, quand même, ça serait extraordinaire.
Mais tes statistiques viennent d'où, là? Moi, je vois beaucoup de monde qui lisent un journal. Quand je vais dans un restaurant partout, il y a tout le temps quelqu'un qui
lit un journal. Ils n'achètent pas non plus, hein?
Ouais, c'est ça. Ça, c'est un autre. C'est ça, exactement. Ah,
regarde.
Exactement.
La presse écrite est moribonde.
Moi, je suis abonné, en tout cas.
La presse écrite, ben oui. Si tu veux gaspiller ton argent, t'as bien en belle. Mais la
je suis abonné au soleil, en plus. Pour encourager.
Moi,
là.
Je m'ennuie encore de l'Action catholique. C'était plus doux quand t'allais aux toilettes.
Ah oui? Tu ris de ça, là, mais c'est bien trop vrai que dans l'ancien temps, dans le temps de nos grands-pères, il y avait de la gazette pour aller aux toilettes. Ça, c'est... Ça fait
on laissait sécher le journal pour ne pas se tacher le derrière avec l'encre. Ton journal est sec, OK, passe-moi-le.
On va passer une toune, bon, on revient. Vous êtes sur Radio Fiat Lux.tk. Content de vous retrouver en ce nouvelle saison. On commence comme ça. Sur Radio Fiat Lux.tk jusqu'à 18h.
OK. Salut, André-Arthur. En tout cas, je suis bien content de te rencontrer. Moi, je veux te conter de quoi à CHRC dans le temps que j'étais là. Ça fait longtemps, parce que moi, quand j'ai pris mes cours de radio avec Roger Gagnon, je ne sais pas si tu l'as connu, il était à CKCV.
Oui, il a pas fondé une école, il a un moment donné.
Oui, il a fondé le CART, je suis diplômé du CART.
C'est pas lui qui a été actif dans la création de l'Académie Saint-Louis dans le temps?
Je croirais que oui. Ouais. Mais moi, je suivais des cours, son école était située sur la rue Saint-Louis, Collège des annonceurs Radio-Télévision de Québec. Et puis, je me souviens que il y a un gars qui travaillait avec toi, CHRC, c'était M. Météo, là, José Mathieu. Je sais pas si
c'est plus que la météo. José Mathieu, c'était un patrouilleur, c'était le fait divers. Non, José, c'était une légende. José Mathieu et Marc Simoneau ont marqué chacun de leur côté la radio de Québec à partir d'abord de CHRC.
Moi, je me souviens que José, moi, il était passionné, lui, il parlait de Skylab, puis moi, ça m'intéressait dans ce temps-là. Mais moi, on avait comme stage, José Mathieu, justement, on nous emmenait à notre école, on allait visiter CHRC. C'est qu'avant que je travaille là, après ça, j'ai travaillé là, mais là, j'avais rencontré José Mathieu, puis là, bon, le moment donné, j'ai commencé à travailler là, puis là, des fois, mais lui, c'est un passionné, là. Des fois, je rentrais à travailler, moi, je commençais à minuit à 6h le matin, là, je faisais mon émission. Et lui, il était là, des fois, jusqu'à 11h30 le soir dans son laboratoire. Il avait comme une espèce de laboratoire, là, dans le fond de la salle des nouvelles, là, tu sais, avec ses écouteurs. Mais lui, il avait des écouteurs avec 7 haut-parleurs dedans. Ouais. T'en souviens-tu de ça? Il m'avait montré ça. Mmh. Il avait des écouteurs avec... Il s'était fait installer 7 ses haut-parleurs ses écouteurs. Il écoutait toutes les postes de radio. Tout ce qui se passait, la police, les pompiers.
C'est ça.
Il y a toutes les CJRP. Il pouvait écouter toutes les autres affaires en même temps.
Il écoutait d'abord et avant tout...
Il écoutait d'abord et avant tout
les fréquences de service public.
Exact.
Qui lui permettait...
Puis les autres radios.
Nombre de fois. Les autres radios, au moins. Je ne pense pas que c'était vraiment intéressant.
Radio-Can, entre autres.
Oui. Mais José avait l'habitude d'arriver sur les feux avant les pompiers.
Ah oui. Alors, je me souviens que c'était tout un... il n'y en a pas eu beaucoup comme ça. Moi, je me souviens de lui parce qu'il était, il était exceptionnel.
Il y avait un ascendant remarquable. Il y a des anecdotes au sujet de José Mathieu qui sont extrêmement drôles. À l'île d'Orléans, il y avait eu une panne d'électricité.
Ouais.
Et d'un côté de la rue, pendant une tempête, on parlait toujours de José Tempête, et d'un côté de la rue, il n'y avait pas d'électricité, puis de l'autre côté de la rue, il y en avait. Alors, un des... les deux avaient déployé une rallonge électrique à travers de la route pour avoir de l'électricité pour faire à manger puis éclairer un peu sa famille. Sauf que dans la nuit, il y a un voleur qui est venu voler l'extension.
Ah oui?
Et José Mathieu, informé de ce crime, avait pris les ondes en disant que c'était épouvantable, ça prenait un chien sale pour avoir fait...
La rallonge, elle servait à quoi, là, cette rallonge-là?
Prendre l'électricité dans la maison.
OK, tu l'as mis l'autre bord.
Pour la donner à celui qui n'en avait pas.
Faire marcher le frigidaire, ouais, c'est ça, ouais.
Et donc, c'est un chien sale qui a fait ça et tout. Et à la surprise générale, la rallonge était revenue. Le voleur avait rapporté la rallonge.
Il avait dit ça, non, le gars. Ah, c'est quelque chose, ça. Mais moi, je vais te raconter une petite anecdote de radio, là, que ça fait longtemps, là, de ça. Dans ce temps-là, je travaillais à CJRP. Là, il y avait une grosse tempête de neige. Fait que moi, je me commande un lunch au Saint-Germain. Puis là, la tempête, là, c'était vraiment une grosse tempête. Fait que là, je me ramasse dans le poste de radio. Là, les routes commencent à fermer. Il n'y a plus rien qui marche. C'est une grosse, grosse tempête, là. Je pense que c'était en 1976 ou 77. Fait que là, la nuit avance. Là, il y a une bonne femme qui m'appelle. Elle dit... je suis enceinte, il faut que j'aille à l'hôpital, puis il n'y a personne qui peut m'emmener, il n'y a pas d'auto qui fonctionne, rien. Pourriez-vous nous envoyer un skidoo? Il était rendu 4h du matin, puis tout était fermé. Fait que là, j'ai réussi à y envoyer un skidoo, puis de la faire emmener à l'hôpital, grâce aux ondes. Après ça, moi, j'ai continué, puis là, le gars qui me remplaçait le matin, il ne rentre pas. Fait que là, j'étais pris en otage dans le poste de radio, jusqu'à 6h le lendemain soir, parce que la porte de la station, là, à CJRP, là, il y avait de la neige aux trois quarts de la porte. Puis là, il y a mon Émile Genet qui est arrivé le matin que j'ai interviewé, que lui, il est venu en skidoo. Là, il a été capable de rentrer, là, à la porte, la porte boulevard Laurier, il est rentré par là, puis il a réussi à rentrer de peine et de misère.
Fait que là, je fais mon entrevue avec Émile Genet. Et là, il s'en va. Et là, il continue à faire mauvais, puis il faisait tempête. Fait que le gars du midi, il rentre pas. Fait que là, j'ai été pogné dans la station avec le café, puis rien à manger toute la journée. Je suis parti de là à 6 heures du soir, puis c'est un nommé l'évêque qui m'a remplacé, peut-être que tu l'as connu. Puis là, quand je suis arrivé au Count Smoke Meat, j'étais allé souper au Count Smoke Meat, j'ai commandé une pizza, puis là, je me suis endormi. Quand la pizza est arrivée, je me suis endormi direct sur la table. Fait que là, la waitress avait réveillé, elle a dit « Hey, je t'ai endormi bien raide ». Puis là, elle m'a réveillé, puis elle a dit « Ouais, ta pizza, ça fait longtemps qu'elle est fraîche. » C'est une petite expérience de la radio que je t'ai racontée.
Tu ne peux pas quitter le micro. Quand ton remplaçant n'est pas là, tu restes.
Puis là, on avait le réseau de temps en temps, qu'on pouvait se brancher de temps en temps sur le réseau. À toutes les heures, il fallait se brancher. Mais imagine-toi comment est-ce qu'il fallait que tu sois quasiment sur le Ritalin pour faire de la radio dans le temps. Il n'y a pas d'ordinateur. C'est un 45 tours après l'autre. Un long jeu après l'autre. Un tape. Hey, la radio, dans le temps, les gens, là, si tu compares ça aujourd'hui, là, ils sont bien, ils pèsent un piton.
Avant ça aussi,
là, c'est un 45 tours après l'autre.
Et avant ça aussi, la production radio, la production commerciale, la production d'émissions.
Le splicing.
Le technicien travaillait debout.
Ben oui.
Je suis devant des murs d'équipement.
Oui.
Non, il y a eu des époques artisanales.
Mais pourquoi il se faisait du splicing? C'est quoi qui se passait?
Ben, disons que la production de commerciaux en
particulier. Ah oui, c'était tout du côté. Ah oui. C'était des rubans de l'acétate.
Des rubans, c'était.
Il y avait du Mylar, puis il y avait de l'acétate. Je me souviens de ça. Le Mylar, l'acétate, ça servait pour les commerciaux parce que l'acétate, il se casse d'un coup sec. Tandis que le Mylar, lui, c'est une bande qui pouvait tourner à 7,5 ou 15 tours. Là. Mais les spots, on faisait ça aux 15 tours parce que le son, il était tout le temps meilleur. 15 tours, ça tournait de même. Là. Mais 7,5, ben, c'est. Puis quand tu voulais avoir un son, ben, pour faire des air-checks, c'était à 1,25. Ça rappelle les fameux Sony, là, que c'est obligatoire. Là, puis moi, ça a déjà arrivé que j'ai oublié d'enregistrer. Puis là, je m'étais fait engueuler. Ça t'a déjà arrivé. T'as oublié de faire partir la machine.
Non, c'est
puis là, l'air-check, il n'y a pas d'air-check.
C'était pas vraiment mon rayon.
Mais nous autres, les animateurs de radio, là, ils étaient obligés. C'est à CHRC, je ne m'en rappelle plus, mais à CJRP, quand on rentrait, on était obligé de changer la bobine, puis mettre la bobine d'air check. Puis ça, c'était comme un ruban Sony que quand il arrivait au bout, il revenait tout seul. Donc, il y avait quatre tracks. Il y avait deux tracks qui servaient pour un bar, puis les deux autres tracks, c'était pour l'autre bar.
En fait,
ça enregistrait 12 heures.
Là, tu parles des archives sonores obligatoires.
Obligatoires du CRTC, s'il arrive de quoi, oui. Ouais.
Et c'était exactement. Aussi, pas seulement pour le CRTC, pour prouver au commanditaire que son message
son spot avait passé. Exactement. Ça fait que, André, ça m'a fait plaisir de t'accueillir à mon
merci
émission.
Merci de l'invitation.
Puis j'espère que tu vas revenir.
Je sais pas, là. Je suis un retraité actif. Alors,
tu viendras faire un tour, tu m'appelleras de ton autobus de temps en temps. Puis...
De l'autobus, j'ai des gros doutes. Je suis pas sûr que mon patron serait content de ça.
Ouais.
De toute façon, quand tu conduis à 110 km/h un véhicule de 20 tonnes avec 50 personnes, leur valise et 1000 litres de diesel, tu n'as pas le temps de faire de la radio.
Mais comment que ça se passe? Ça doit être bizarre des fois. Tu dois rencontrer des moyens numéros, des drôles de moineaux qui embarquent à bord.
En général,
ça va bien habituellement?
Moi, je travaille pour une compagnie.
Tu ne travailles pas de nuit, là, tu travailles de jour.
Ah, je travaille beaucoup de nuit.
De nuit, c'est spécial des fois.
Mais je travaille pour une compagnie qui s'appelle Bel Horizon, qui est spécialisée dans le nolisement.
Ah, t'es plus avec Intercar?
Non, j'ai quitté Intercar il y a 7-8 ans. Là.
OK.
Peut-être un peu moins. Et là, je travaille surtout seulement sur du nolisé, sur des voyages organisés, des gens qui. Des groupes scolaires, des groupes sportifs, des agences de voyage qui louent des autocars pour faire des voyages. Là, on est à la veille de la saison des bateaux qui vont arriver à Québec. Là. Alors, c'est des milliers de personnes qui vont vouloir faire des visites dans la région. On va travailler là-dessus.
En tout cas, je souhaite que tu aies la santé pour continuer. Puis c'est vrai que c'est le fun de travailler dans le public. Moi, j'ai travaillé longtemps dans le public avec le monde. Puis c'est toujours intéressant de rencontrer du monde, puis de rendre service. Puis c'est comme moi, je suis pas capable de rien faire. D'un matin, tu me dirais, tu fais rien, tu restes assis devant ta TV, ça m'intéressera pas. Faut s'occuper, faut faire de quoi.
Quand tu as la santé.
Quand on a la santé.
C'est très
exactement.
Dangereux d'arrêter. Très dangereux. Ça détruit.
Parce que
quand t'as pas la santé, il faut que tu te soignes. Mais quand, peu importe l'âge, moi j'ai toujours eu l'impression que quand tu as la santé, la retraite...
C'est la plus grande richesse.
La retraite, pour ceux qui ont la santé, c'est pour les paresseux et les fonctionnaires.
Oui, exactement, parce que des fois, t'as envoyé chez McDonald's, ben les restaurants, ils passent le renvers en midi là, puis ils font... Il faut faire de quoi, il faut s'impliquer.
As-tu vu ceux qui arrivent avec leur tasse sale de la veille pour avoir un réchaud, pour ne pas payer leur café?
Ouais, moi, je vais plus souvent chez McDo.
C'est ça, les personnes âgées au Québec.
Oui. Mais c'est ça, mais c'est, comme tu disais tantôt, il y en a que la santé peut les ralentir, mais tu sais, il y a ce bout-là aussi. Là. En tout cas, André, ça m'a fait plaisir de t'avoir accueilli dans GFP en direct sur Radio Fiat Lux, puis tu seras toujours le bienvenu quand ça te tentera. Tu me lâches un coup de fil, puis tu viens faire un tour. Puis on l'annonce la veille. Même si j'ai envoyé des communiqués, le gars, vois-tu, comme tu disais, là, la presse corporate, le gars, ils n'ont pas voulu en parler. Fait que Pierre Gingras, j'ai envoyé un communiqué. J'ai envoyé un communiqué à plein de monde. Là, puis André Arthur, visite André Arthur. Mais tu sais, c'est dans le fond, je me dis une chose, c'est qu'ils ont fondé Cube Radio. Tu comprends? Cube Radio, tu connais ça? Depuis ce temps-là, puis moi, ce que je trouvais le fun, André Arthur, quand tu faisais tes émissions de radio, tu n'avais pas peur de nommer. Moi, j'aimais beaucoup ta chronique, ta critique sur les radios. On ne voit plus ça. Où que tu entends ça, une chronique ou un article où on parle des postes de radio, la qualité, les émissions, mais toi, tu n'avais pas peur de... Tu parlais, quand tu faisais ta chronique de radio, c'était dans le temps avec Christian Thibault, peut-être même, dans ce coin-là, puis tu critiquais, puis tu n'avais pas peur de nommer Choix FM, Énergie. Tu ne te gênais pas pour les nommer, pour les critiquer. Ce qu'on ne voit plus maintenant.
Ils se demandent pourquoi personne ne les écoute. Parce qu'ils sont plates.
Puis ils sont déconnectés de leur auditoire.
Salut!
Hey, salut André, ça m'a fait plaisir. Puis on va mettre ton thème de radio avant que tu quittes.
L'orchestre de la GRC, thème du Muppet Show.
Ah oui?
C'est l'orchestre de la GRC.
On va l'écouter parce que je l'ai toujours trouvé bonne, ton thème. On l'écoute.
d'avoir collé à Tchoum vous attaque avec Emergency.
Écoutez le retour de GFP en direct sur RadioFiatLux.tk.
Radio Fiatlux.
La radio indépendante en direct du centre-ville de Québec. Bienvenue dans le retour. C'est l'automne qui commence. On va vous accompagner demain de 16h à 18h sur votre radio expérimentale à Québec. RadioFiatLux.tk.
Okay. start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. It's up to you.